Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Plus de 120 000 participantes lors de la clôture de la rencontre plurinationale des femmes. L'Argentine a soutenu à l'ONU la condamnation de l'annexion par la Russie de régions de l'Ukraine. Le ministre de l'Économie se rend à nouveau aux États-Unis. L'accès touristique aux chutes d'Iguassu est fermé en raison de la montée des eaux. Brésil. L'ancien président Lula promet des améliorations sociales dans les favelas s'il remporte le scrutin du 30 octobre. Pour la première fois dans l'histoire du Pérou, un président en exercice a été accusé de corruption par la justice. La revendication de l'apparition de la jeune fille Guadalupe Lucero a été l'une des consignes centrales de la 35e rencontre plurinationale des femmes, lesbiennes, trans, travesties, bisexuelles, intersexuelles et personnes non-binaires qui s'est déroulée le week-end dernier dans la capitale de la province de San Luis, dans le centre-ouest de l'Argentine, avec plus de 120 000 personnes venues de tout le pays. Entre autres, ont participé des familles de victimes de féminicides, des femmes indigènes de tous les territoires, des mouvements syndicaux et des partis politiques. Lundi, lors de la cérémonie de clôture, a été lu un document final avec les conclusions des ateliers et des débats. L'Argentine a voté en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la tentative d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et a rejeté les référendums dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. La résolution a été approuvée par une large majorité de la communauté internationale avec 143 voix pour, 35 abstentions et 5 contre. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que, conformément à ses positions traditionnelles et comme elle l'a exprimé dans différents forums multilatéraux en raison de la guerre en Ukraine, l'Argentine réitère, comme elle l'a déjà fait en relation avec la Crimée, que seule l'adhésion totale aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, le respect du droit international, la souveraineté des États et leur intégrité territoriale permettra d'arriver à des solutions justes et durables pour tous les acteurs politiques et sociaux. La représentante argentine auprès des Nations Unies, Maria del Carmen Schiaff, a déclaré lors de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée que toute tentative de briser partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un État ou son indépendance politique par la force est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Elle a ensuite souligné que du point de vue du droit international, de tels référendums sont nuls et non avenus. Ils n'ont aucune valeur juridique et ne modifient pas le statut de ces territoires. Au Brésil, la campagne pour le second tour du 30 octobre entre le président Jair Bolsonaro et son rival, l'ancien président Lula da Silva, se poursuit. Mercredi, Lula était à Rio de Janeiro où il a promis d'améliorer les programmes sociaux destinés aux habitants des favelas. Il a affirmé que s'il gagne, les représentants de ces communautés participeront à l'élaboration des politiques publiques en faveur des pauvres. Et d'affirmer « Il faut en finir une fois pour toutes avec cette histoire selon laquelle l'État n'intervient dans les favelas que lorsqu'il envoie la police en opération. » Bolsonaro, quant à lui, s'est rendu au sanctuaire d'Aparecida à São Paulo où il a participé d'une cérémonie avec ses fidèles étant donné l'importante composante religieuse du discours du président. Le ministre de l'Économie, Sergio Massa, se rend à nouveau aux États-Unis pour défendre les investissements publics dans son pays. Dans le cadre d'une réunion de la Banque interaméricaine de développement, le BID, Massa a déclaré « Il est absurde de considérer les dépenses de développement comme un déficit » et d'ajouter « Cela condamne nos pays à être pauvres ». En tout état de cause, le ministre a ratifié son objectif de réduire le déficit budgétaire de l'Argentine à 2,5% du PIB cette année. Dans le cadre du séjour de Massa à Washington, la BID a approuvé un nouveau prêt de 700 millions de dollars pour l'Argentine. Ces fonds sont destinés à promouvoir la stabilité économique et à renforcer les finances publiques. L'appui budgétaire, selon la même source, vise également à protéger les dépenses sociales pour les groupes vulnérables. En raison de la crue des rivières, Iguassu et Uruguay, l'accès touristique aux chutes d'Iguassu a été fermé. Les pluies au Brésil ont provoqué des débordements dans les cours d'eau de la région, nord-est de l'Argentine, où plusieurs familles ont dû être évacuées. Les autorités de Posadas, capitale de la province de Misiones, ont déclaré que les inondations étaient parmi les plus importantes de ces dernières années et que le fleuve Uruguay avait augmenté de 5 cm par heure. Pour cette raison, le réseau de distribution d'eau potable de la ville a également été coupé. Pour la première fois dans l'histoire du Pérou, un président en exercice est accusé de corruption. La procureure de la nation sud-américaine, Patricia Benavides, a dénoncé mardi le président Pedro Castillo pour l'existence d'une organisation criminelle retranchée dans le gouvernement. Lors d'une conférence de presse, elle a présenté une plainte constitutionnelle contre le chef de l'État et a demandé au Congrès de révoquer son immunité. Depuis son entrée en fonction en juillet 2021, Castillo a surmonté 2 motions de destitution au Parlement, a été abandonné par le parti qu'il a porté au pouvoir et a dû procéder à des changements répétés de cabinet. Le président, ancien dirigeant syndical et paysan, nie les accusations portées contre lui et soutient qu'elles font partie d'une campagne visant à entraver les réformes qu'il veut faire passer. Voici un rapport de RFI.
Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer.
Pedro Castillo l'entend et il nous dit, le président péruvien, si mon sang doit couler dans les rues pour le bien du peuple, je dois le faire. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Pedro Castillo qui est visé par un recours constitutionnel pour corruption, la presse en parle. Hein.
Et c'est une première, hein, Michael, contre un président en exercice. C'est ce que note Ojo Publico, sans précédent dans notre histoire républicaine, renchérit El Comercio. Une plainte qui s'ajoute à 5 enquêtes pour des délits présumés de corruption, d'organisation criminelle, etc. Et même pour plagiat présumé de sa thèse de maîtrise. Ce recours constitutionnel fait état de l'existence d'une organisation criminelle retranchée au sein du gouvernement, note El Comercio, visant à tirer profit des passations de marchés publics. Pour le journal péruvien, le schéma ressemble tout à fait au fonctionnement d'une mafia. La plainte atterrit donc sur le bureau du Parlement, qui doit l'examiner et décider éventuellement d'une suspension du président péruvien. Moment décisif pour le pays, juge l'éditorialiste de la Repubblica. Le Pérou, paralysé par cette saga de plus en plus visible, des délits dans l'entourage du président. Pedro Castillo, lui, se dit encore persécuté, on l'a entendu, mais pas de déclaration aux médias, note El Comercio, pas d'accès de la presse nationale au palais. C'est aujourd'hui que les réponses du président sont les plus nécessaires et pourtant, c'est là qu'il est le plus discret.
Embargo à Cuba. Hernando Calvo Ospina, journaliste sur la chaîne vénézuélienne Telesur, a interviewé le député belge Raoul Edebout, qui analyse le blocus américain contre Cuba et le rôle de la presse dominante. Dans son intervention, il montre le rôle complice de l'Union européenne avec les États-Unis contre Cuba et l'Amérique latine.
Je crois que comme dans beaucoup de dossiers, le problème qu'on a, c'est que l'Europe se met à la remorque de l'impérialisme américain et donc suit en fait l'agenda unique des États-Unis d'Amérique. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, même partis dits traditionnels, qui trouvent qu'il y a un problème avec l'embargo cubain, que l'embargo cubain contre Cuba en fait est illégitime. Quand je discute avec d'autres partis, on a même déjà eu des résolutions au Parlement fédéral belge qui disent qu'il y a un problème avec cet embargo. Mais par contre, l'Union européenne n'ose pas politiquement revendiquer au niveau des États-Unis d'Amérique la levée de l'embargo. Qui plus est, un embargo qui aussi a des répercussions sur les entreprises européennes qui voudraient faire du commerce avec Cuba. Un bateau qui va accoster à Cuba ne pourrait plus aller aux États-Unis et donc évidemment d'un point de vue commercial ne pourrait plus faire ses rotations. Je pense qu'il y a de toute façon toute une propagande mondiale contre Cuba qui est là. Je veux dire, moi ce qui me frappe toujours dans la presse européenne, c'est qu'il y a plein d'articles qui vont parler de Cuba, souvent en négatif d'ailleurs, mais que beaucoup d'articles ne mentionnent même pas qu'il y a un embargo économique qui a ses répercussions. D'un point de vue idéologique et d'un point de vue méthodologique, c'est quand même grave. Moi, je suis représentant aujourd'hui politique d'un pays comme la Belgique. Il est clair que si la Belgique vivait un embargo d'une même intensité que celui de l'administration Biden contre Cuba, en l'espace de 3-4 jours, notre économie fait faillite. Je veux dire, nos ports seraient fermés, on ne produirait plus d'énergie, on ferait faillite dans 4 jours. Et donc cette humilité, un peu, dans l'analyse politique, de dire, OK, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes à Cuba, mais de ne pas les cadrer dans le cadre de cet embargo, c'est incroyable. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'articles dans la presse qui se permettent de ne pas mentionner, ou bien une petite phrase à la fin, pour dire alors en plus que l'embargo en fait, est une excuse pour les autorités cubaines. Enfin, moi, je trouve que ce prisme d'analyse l'analyse mondiale aujourd'hui, qui nous vient en droite ligne, je veux dire, de Washington, je trouve ça c'est assez dramatique, quoi. Cet héritage, je dirais, de l'ordre mondial dominé par les États-Unis d'Amérique qui font que l'Amérique latine serait la chasse gardée des États-Unis. Mais c'est fou, c'est plus digne du 21e siècle, une telle logique. Donc de ce côté-là, nous, on veut plutôt plaider pour que l'Union européenne tende la main à tous ses peuples, fasse des relations commerciales, politiques, en respectant évidemment la non-ingérence dans les affaires intérieures de ces pays. Parce que moi, quand je vois aujourd'hui comment on a réussi à faire passer n'importe quel opposant vénézuélien comme étant un président en puissance, par exemple, c'est quand même fou. Je veux dire, on ferait le quart de la moitié, on aurait l'Amérique latine qui reconnaîtrait le quart de la moitié d'un opposant politique chez nous, je veux dire, comme étant le nouveau premier ministre belge, mais on n'accepterait pas ça. Donc moi, je crois qu'il y a quand même un respect mutuel qui est à construire entre les nations du monde, qui aujourd'hui n'est pas dans l'idéologie de base de l'Union européenne. Elle croit toujours quelque part qu'elle vit encore dans les années 50-60, les temps presque précoloniaux, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est fou cette idéologie-là. Je trouve qu'un des problèmes de la gauche traditionnelle, c'est qu'elle a perdu une tradition anti-impérialiste qui existait dans la gauche traditionnelle aussi dans les années 80-90. Je veux dire, moi, je rencontre beaucoup d'anciens militants, même la social-démocratie européenne, qui ont un côté militant, je veux dire, vers Cuba, vers les pays du tiers-monde, etc. Et on sent que ça se perd. Donc moi, je sens quand même une régression, mais en même temps, avec les luttes en cours aujourd'hui, une jeunesse qui rentre de plus en plus dans le combat, je sens qu'il y a beaucoup de débats au niveau de la gauche traditionnelle et qu'il y a des ouvertures pour pouvoir ensemble réaliser des projets aussi en soutien à Cuba et au Venezuela. C'est un petit peu différent, mais en Espagne, je pense que c'est un peu plus tendu. Il y a un peu une tradition de la social-démocratie espagnole de plus aller se mêler des affaires politiques des peuples latino-américains, comme s'il y avait une sorte de tradition historique qui doit être perpétuée. On a moins ça, évidemment, en Belgique, vu que la Belgique s'est plus mêlée des affaires intérieures des peuples africains que des peuples latino-américains. Donc chaque gauche a finalement des comptes à régler avec sa mentalité coloniale et néocoloniale. Chez nous, en Belgique, c'est un peu la tendance à croire qu'on peut continuer à se mêler des questions africaines. Et je pense que du côté du sud de l'Europe, on n'a plus une tradition de se mêler des affaires des peuples latino-américains.
Haïti. Des milliers de manifestants ont encore défilé lundi et mardi dans plusieurs villes d'Haïti pour réclamer le départ d'Ariel Henry, le Premier ministre que beaucoup considèrent comme illégitime, pour demander une intervention militaire étrangère. Partageons un rapport de RFI.
C'était hier à Carrefour, commune à l'ouest de la capitale haïtienne. Des milliers de personnes défilaient encore pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry. Extrait là d'une vidéo mise en ligne sur le site de l'agence Alter Press. Son rédacteur en chef est en ligne avec nous de Port-au-Prince. La mobilisation se poursuit donc à travers Haïti, avec par endroits, Godson, des violences et des pillages.
Oui, les manifestations antigouvernementales et les troubles continuent en effet. Hier, la police a été sollicitée dans plusieurs endroits, tirant à balles réelles et faisant usage de gaz lacrymogène lors de plusieurs manifestations à Port-au-Prince et en province. Au moins une personne est décédée par balle lorsque des agents de la police ont tenté de disperser une foule de manifestants sur l'axe de Delma, en périphérie nord-est. Bureaux publics et entreprises saccagées et pillées sont répertoriés à la capitale et dans les régions, notamment au Gonaïves et au Cap-Haïtien, au nord du pays.
Et on entend là les milliers de manifestants au Gonaïves, où d'ailleurs le tribunal de la ville a été incendié. Godson, la colère des manifestants a redoublé aussi depuis que la demande par le gouvernement d'une intervention militaire étrangère. Beaucoup considèrent Ariel Henry illégitime pour effectuer une telle demande. Cela constituerait même un acte criminel et une trahison selon plusieurs organisations.
Et parmi ces organisations, l'Association militaire d'Haïti, regroupant d'anciens militaires et différentes organisations syndicales de transport public ou même des entités politiques, alors que quand même la question suscite plutôt une polémique sur les réseaux sociaux. L'Association militaire d'Haïti critique le comportement des ministres qui ont signé la résolution du 6 octobre autorisant les militaires étrangers à fouler le sol d'Haïti. Elle demande que les signataires soient à long terme jugés pour crimes de haute trahison à l'encontre de leur pays.
Conséquence aussi, Godson, de ces manifestations et de la pénurie de carburant en Haïti, c'est la vie depuis un mois qui est littéralement au ralenti, pour reprendre le titre de l'article d'Alter Press.
et qui s'arrête presque, les activités de plus en plus perturbées peinent à reprendre leur cours normal en Haïti. À part quelques rares mototaxis qui circulent dans les rues, les transports en commun demeurent globalement paralysés, le commerce formel et informel continue de fonctionner au ralenti, les médias aussi au ralenti, particulièrement dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.
Pendant que l'épidémie de choléra, elle, Godson, eh bien, continue à prendre de l'ampleur en Haïti.
Déjà 12 décès sur plus d'une centaine de cas de choléra recensés dans le quartier de Cité-Soleil au nord de la capitale, selon les autorités locales. 9 décès, 2 cas confirmés de choléra et 39 autres suspects ont été dénombrés au pénitencier national, principal centre carcéral à Port-au-Prince. C'est ce que confirment les autorités sanitaires.
Une situation sanitaire qui fait craindre le pire dans les prisons haïtiennes. Merci beaucoup, Godson Pierre, rédacteur en chef du site d'Alter Presse. Donc, situation inquiétante, je le disais, notamment, comme le disait à l'instant Godson Pierre, dans ce centre pénitentiaire national de Port-au-Prince, plus grande prison du pays, selon la fondation J'éclairais, qui défend les droits de l'homme en Haïti. La réalité est même très loin du bilan officiel des autorités. Son président, Samuel Madistin, évoque au moins 21 morts rien que dans cet établissement.
Il n'y a pas un principe de test médico-légaux sur les cadavres, mais à l'évidence, ce sont des décès dus au choléra parce qu'il a été testé que le choléra est dans la prison. Quand on regarde les symptômes sur les personnes décédées, notamment la diarrhée, et donc ce sont des signes qui prouvent qu'elles sont décédées des suites du choléra. La situation dans la prison est une situation exécrable. Les détritus jonchent la prison. La compagnie qui s'occupe du ramassage des ordures ne fait pas régulièrement son travail, beaucoup plus ces derniers temps, faute de carburant. Et les prisonniers sont maigres, mal nutris, mal nourris. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, manque de soins de santé, manque de nourriture en quantité suffisante et en qualité. Il s'agit d'une situation extrêmement préoccupante dans nos prisons. S'il y a un détenu qui a une situation qui nécessite qu'on l'envoie dans un centre hospitalier en dehors de la prison, il y a un problème, il n'y a pas suffisamment d'argent pénitentiaire pour superviser les prisonniers à l'hôpital. L'espace qu'ils ont pour mettre en isolement des détenus malades est exigu. Le risque de propagation est énorme. Le risque d'une catastrophe humanitaire dans les prisons est bien réel. L'État ne fonctionne pas. Plus de 60% de la capitale est contrôlée par les gangs armés. Donc, il y a une absence de l'État. Les appareils répressifs de l'État ne fonctionnent pas. Donc, à partir de ce moment, la situation de la justice influe sur la situation de la prison.
L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui se dit très préoccupée par ce retour du choléra en Haïti.
RFI à Gonaïves, 90.5 FM.
Les Gonaïves, dans le nord d'Haïti, où la situation se tend un peu plus. Pour la deuxième journée consécutive hier, la ville a été totalement paralysée. Les manifestations quotidiennes pour réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry n'avaient pas encore commencé, que plusieurs dizaines de personnes ont pillé des locaux d'entreprises appartenant notamment au ministre de la Défense. Ronald Paul était sur place pour RFI.
À l'indépendance de hôtels et bars restaurants, les protestataires ont emporté des matelas, des lits, des chaises, des ordinateurs et même des cuvettes de toilettes. Ce jeune homme cagoulé ne cache pas sa motivation.
Le ministre a signé pour que les forces étrangères viennent nous sécuriser. Nous sommes prêts à nous sécuriser nous-mêmes. Si le ministre n'avait pas voulu de désordre, il n'aurait pas dû accepter de signer.
Ce n'est qu'un signal envoyé au ministre de la Défense, affirme cette manifestante très en colère. Selon elle, c'est avec l'argent des contribuables que le ministre a construit ses hôtels.
C'est ici que se cache l'argent du peuple, dans ces constructions. L'argent des commerçants est passé ici.
Alors qu'un groupe de protestataires emporte des chaises et des matelas, soudain, c'est la panique. Des gens courent partout, des coups de feu sont entendus, annonçant l'arrivée de Jerry Bien-Aimé, l'un des hommes armés du quartier populaire de Raboto et son équipe, qui lance aussitôt une opération pour récupérer les matériels pillés. Arme à la main, Jerry Bien-Aimé contraint des gens à retourner certains objets.
Nous n'acceptons plus les scènes de pillage. Nous sommes à 100% pour le départ d'Ariel Henry. C'est pourquoi nous continuerons à manifester tous les jours. Mais la violence et les pillages, nous ne les acceptons plus.
Une décision qui rend furieux ce jeune homme.
Pourquoi ils ne nous avaient pas empêchés de piller les institutions des sœurs et de frères qui ne sont pas dans la politique? Pourquoi c'est lorsqu'on attaque les entreprises des hommes politiques qu'ils interviennent? Ils sont payés pour cela.
Ronel Paul Legonaïf, RFI.
Et un peu plus tard, des rafales d'armes automatiques ont causé la mort d'un jeune homme au Gonaïv. Pour aller plus loin sur cette mobilisation et les raisons de la colère en Haïti, nous sommes en ligne avec Frédéric Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques au CETRI, le centre tricontinental basé en Belgique. Cette détermination de ces manifestants que l'on vient d'entendre, comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je pense que le désespoir et la révolte sont la clé d'explication. C'est à la fois un désespoir par rapport à une situation qui ne cesse de s'aggraver et une révolte par rapport à un gouvernement qui est totalement étranger à la vie quotidienne de la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes.
Ce gouvernement qui, en fin de semaine dernière, a fait la demande officielle d'une intervention militaire étrangère pour tenter de desserrer l'étau des gangs sur Haïti. Demande jugée anticonstitutionnelle, illégale, certains parlent même d'actes de trahison. Frédéric Thomas, au regard du droit, ces critiques sont-elles fondées et pourquoi cette quasi-unanimité pour le dénoncer ?
Je ne suis pas un spécialiste de la constitution haïtienne, mais dans la constitution d'Haïti est bien inscrit le principe d'indépendance et de souveraineté. Et donc on est face à un fait inédit où un gouvernement qui n'est pas dans un état de guerre, qui n'est pas envahi, appelle une intervention armée internationale pour régler des problèmes internes. Donc ça apparaît aux yeux de la population comme une nouvelle humiliation et aussi surtout le marqueur de l'incapacité citer le gouvernement non seulement à lutter contre les bandes armées et l'insécurité, mais aussi à régler les problèmes auxquels le pays est confronté. C'est vraiment un marqueur de la faillite et de ce gouvernement et de la diplomatie poursuivie jusqu'ici. Et donc cette unanimité s'explique largement au vu de l'illégitimité de ce gouvernement et cet appel qui apparaît lui aussi illégitime et qui semble être plutôt une manière pour ce gouvernement de se jeter dans une fuite avant pour assurer sa survie politique.
Ces interventions étrangères qui ont jalonné l'histoire moderne d'Haïti, quelles traces elles ont laissées dans la mémoire collective des Haïtiens, Frédéric Thomas ?
Ils ont laissé de très mauvais souvenirs. Donc les effets les plus immédiats, les plus récents, c'est la propagation de l'épidémie de choléra qui avait en 2010 et qui avait disparu au cours de ces trois dernières années, qui réapparaît aujourd'hui. Ce sont aussi les multiples agressions sexuelles et viols des casques bleus. C'est aussi une forme d'impunité puisque les casques bleus n'ont pas pu être jugés en Haïti. Et enfin, c'est aussi un paradoxe de missions dont le statut est problématique puisqu'il s'agit de maintien de la paix, mais encore une fois, Haïti n'est pas dans une situation de guerre, renforcer l'État et qui n'ont fait que l'affaiblir.
Quand même, en situation de guérilla urbaine, on peut quand même le noter avec des gangs qui ont une mainmise totale sur le pays. Frédéric Thomas, est-ce que ces interventions précédentes, au regard de l'histoire, ces interventions étrangères, elles ont solutionné les différentes crises ou elles les ont aggravées ?
Elles n'ont pu se confronter à aucun des problèmes structurels auxquelles fait face le pays. Et à long terme, elles ont un peu plus affaibli les institutions publiques et rendu plus dépendant le pays, ce qui hypothèque l'avenir et condamne Haïti à ce cycle de crise, de catastrophe et d'ingérence.
Brian Nichols, le sous-secrétaire américain du département d'État, est à Port-au-Prince aujourd'hui et demain. Hier, l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis a lui estimé que les voisins comme les États-Unis et le Canada devait prendre l'initiative d'une nouvelle intervention étrangère. Frédéric Thomas, est-ce qu'on peut imaginer que l'annonce d'Ariel Henry a été précédée d'un accord avec ces pays pour négocier leur intervention ?
Bon, mais sans tomber dans le complotisme, on peut que noter la convergence et la rapidité des réactions. Quelques jours avant que Ariel Henry fasse cet appel à une force armée internationale, cet appel avait déjà été suggéré par Luis Almagro, le secrétaire général de l'OEA, Une fois cet appel fait par le gouvernement haïtien, tout de suite, le secrétaire général de l'ONU l'a repris et l'a appuyé. On voit que quelques jours plus tard, le Brian Nichols est en Haïti. Et de fait, tout le monde sait que cet appel à la communauté internationale vise d'abord et avant tout Washington. Donc il semble bien, oui, que cet appel a été précédé, a été en partie, en tout cas, discuté avec ses destinataires.
Parmi les opposants donc, à cet envoi, sur le plan purement politique, il y a les tenants de l'accord de Montana. Cette position, pour eux, est-ce que c'est une manière de regagner en crédibilité, de se poser en véritable opposition après n'être pas parvenu à imposer un projet de transition politique à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse ?
Non, je ne pense pas, parce que l'opposition à toute intervention armée, à cet appel, elle est très largement partagée au sein de la population. C'est plutôt une manière de remettre en évidence le clivage très net entre, d'un côté, un gouvernement et une oligarchie, encore une fois, tournée vers l'international, et la grande majorité de la population qui entend affronter ces problèmes et trouver une solution haïtienne à cette crise.
Une dernière question, Frédéric Thomas. Outre cette demande d'intervention étrangère, imaginons que si elle n'avait pas eu lieu, quelle aurait pu être l'autre solution pour ramener la paix en Haïti ? On a beaucoup parlé de la police nationale d'Haïti, de lui donner plus de moyens. Ça aurait pu être, selon vous, une alternative ?
Non, parce que malheureusement, à l'instar des autres institutions publiques, la police haïtienne a largement été captée, privatisée, affaiblie, politisée. Elle est également infiltrée par les bandes armées, ne jouit pas de la confiance de la population. Donc, telle qu'elle l'a renforcée n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut, c'est, pour lutter contre l'insécurité, c'est lutter contre l'impunité, contre le principal garant de cette impunité, à savoir le pouvoir en place, assurer une transition avec un autre pouvoir qui serait beaucoup plus reconnu, légitime. Donc, il faut commencer par changer le pouvoir en place, parce que ce pouvoir-là est instrumentalisé les bandes armées pour lutter contre le mouvement social et participe, entretient cette insécurité.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.